Bienvenue à Mediapart pour ce face-à-face pendant la campagne présidentielle. Bonsoir Nathalie Arthaud. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de Lutte ouvrière et donc candidate à l'élection présidentielle. C'est votre deuxième campagne. Arlette Laguiller vous a précédée, elle en a fait six. Et elle a inscrit ce travailleur-travailleuse qui...
Travailleuse-travailleur,
vous avez entièrement raison, qui était en rupture avec ce monde politique. Vous-même, vous êtes enseignante de profession. Arlette Laguiller était employée de banque. Et donc, vous êtes candidate à cette élection. On va en parler pendant une demi-heure, comme on l'a fait avec Philippe Poutou du nouveau parti anticapitaliste. Je suis avec Christophe Guignot qui suit notamment votre campagne. Et donc, je laisse à Christophe le soin de vous interpeller.
Oui, donc bonsoir.
Bonsoir.
Donc, comme l'a dit Edoui, vous êtes candidate pour l'élection présidentielle, vous êtes candidate pour la seconde fois. Et en même temps, quand on lit, par exemple, sur le site de Lutte ouvrière, il est dit, j'ouvre les guillemets, « Même quand elles ne sont pas entachées par des fraudes plus ou moins massives, les élections ne sont au mieux qu'un pâle reflet très déformé de l'opinion publique, certainement pas un moyen de transformer la société. » Alors, en fait, vous faites quoi dans cette campagne, concrètement?
On s'exprime, voilà, on s'exprime. Je crois que c'est ça aussi, la démocratie. C'est de s'exprimer et puis c'est de commencer par dire que tout ça, c'est une duperie, effectivement. C'est une mascarade. Voilà, bon, il y avait une expression qui était populaire en mai 1968, c'est la dictature, c'est ferme ta gueule, et la démocratie, c'est cause toujours. Je crois qu'il faudrait la remettre au goût du jour. C'est exactement ça, parce que quel que soit celui qui sera élu, la réalité, c'est qu'il fera la politique qui sera dictée par les grandes puissances de l'argent, par le grand capital, par la grande bourgeoisie, comme Hollande l'a fait. Et comme avant lui, d'autres prétendument socialistes l'ont fait au pouvoir. Donc nous en sommes tout à fait conscients. Et moi, je tiens à le dire dans cette élection. Et le courant que nous représentons, qui partage ce point de vue-là, nous pensons qu'il a il est légitime à s'exprimer aussi, à le dire. Et justement, donc, à mettre en avant sa politique, ses perspectives, ses moyens d'action, les luttes collectives, la conscience ouvrière.
En 68, on disait aussi élection piège à con. Donc ça veut dire que pour vous, l'élection présidentielle, c'est une tribune. La question du score n'est pas importante. Je rappelle que la fois dernière, c'était 0,56% des suffrages exprimés. Le but, c'est simplement, on saisit l'occasion pour pouvoir être dans les médias et faire campagne et occuper l'espace public.
C'est plus que ça, quand même. Parce que, d'abord, il ne s'agit pas d'une tribune pour Nathalie Arthaud, pour Lutte ouvrière. Il s'agit aussi que, dans la vie politique, se fasse connaître, reconnaître un camp, une force politique, qui est certes minoritaire. Bon, on me parle souvent des 0,56%, mais 0,56%, c'est 200 000 électeurs. 200 000 femmes et hommes qui sont conscients de leurs intérêts, qui sont combatifs, dans des situations où il y a un réveil de la combativité ouvrière, ça peut changer beaucoup de choses. Imaginons qu'en Guyane, là, en ce moment, il y ait ne serait-ce que 1 000 000, 2 000 travailleuses, travailleurs conscients de leurs intérêts particuliers, d'ouvriers, de chômeurs, etc. Peut-être qu'ils pourraient aussi tirer un peu leur épingle du jeu dans ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est ce qui va se faire, mais voilà. Donc c'est aussi qu'il y a un camp qui se présente, qui montre qu'il existe, voilà. Et je pense que c'est très important, ne serait-ce que pas pour peser, je le redis, pas pour peser sur les dirigeants, mais au moins pour s'adresser, y compris à l'ensemble de la classe ouvrière, qu'on voit déboussolée, complètement désorientée aujourd'hui, émiettée, et au moins pour s'adresser à eux et leur dire, il y a un courant qui ne se résigne pas, qui veut mener le combat.
Dans votre meeting à Aubervilliers dimanche dernier, vous avez dit, nous ne voulons pas participer à la gestion de ce système capitaliste, nous voulons le renverser.
Oui.
En fait, c'est une espèce de vaste campagne de recrutement de révolutionnaires. La tribune que vous offre la présidentielle, c'est un peu ça l'idée quand même, malgré tout.
Dans cette élection, nous n'appelons pas à voter pour la révolution, ça n'aurait pas de sens. On ne vote pas pour la révolution, on ne vote pas pour le communisme, ça ne se passe pas comme ça.
C'est pour ça que j'ai parlé de campagne de recrutement.
Non, c'est y compris, on ne... c'est justement que les travailleurs, que les exploités, que les ouvriers, les chômeurs se reconnaissent comme étant constitutifs d'une classe sociale qui a des intérêts opposés à la bourgeoisie, à la grande bourgeoisie, aux grands groupes capitalistes, se reconnaissent comme ça. On ne peut pas regretter le recul de la conscience de classe et ne pas l'affirmer quand on en a l'occasion politique. Donc moi, effectivement, je veux dans cette élection faire entendre le camp des travailleurs, les intérêts de classe et faire que, justement, la conscience ouvrière, eh bien, elle en sorte un peu renforcée. Donc c'est ma démarche. Et pourquoi c'est une communiste qui a cette démarche-là? Parce qu'en réalité, faire entendre les intérêts des travailleurs, ça veut dire aller jusqu'à renverser l'exploitation capitaliste. Ça veut dire aller jusqu'à contester la domination de cette classe qui, du fait de la possession de ses capitaux, peut réduire en esclavage salarial des centaines de milliers de femmes et d'hommes. Voilà. Donc c'est pas surprenant. Voilà. Pour faire entendre le camp des travailleurs jusqu'au bout, eh bien oui, il faut être communiste, révolutionnaire, ça j'en suis convaincue. Donc c'est lié, et en même temps, très clairement pour nous, voilà, moi j'en appelle un vote de conscience de classe.
Mais sur la longue durée, l'histoire du communisme, et y compris du communisme révolutionnaire, est plurielle. Est-ce que ça veut dire, dans votre esprit, de ces campagnes solitaires de lutte ouvrière, qu'au fond, il n'y a que lutte ouvrière comme organisation, et à l'exception de toutes les autres, de toutes, y compris ce qui bouillonne dans la société, qui incarne cette conscience de classe, qui porte cette conscience de classe, dont quelque part, je vous provoque en vous disant ça, vous seriez un peu propriétaire par l'idée de ce que vous faites de votre programme et de votre organisation.
Monsieur Pénel, si demain vous voulez vous revendiquer communiste révolutionnaire, je vous applaudirai dès demain. Mais je ne crois pas que ce soit le cas.
Ah, vous devriez vous renseigner. Mais allons-y, c'est pas moi qui suis candidat.
Mais moi, ce que je constate, c'est que dans cette campagne électorale, je suis la seule à afficher cet héritage, cette filiation communiste révolutionnaire, la seule. J'ai entendu Philippe Poutou qui a corrigé la journaliste qu'il a interviewée hier en disant que non, le NPA n'était pas trotskiste. Bon, ben, voilà, moi je suis effectivement communiste et je crois que la seule façon d'être communiste aujourd'hui, enfin depuis les années 20, c'est d'être trotskiste. Donc moi je me revendique de ce courant-là, de cet héritage-là. Et je pense que le drame du mouvement ouvrier, c'est qu'on n'appelle plus un chat, voilà. Et oui, quand on veut exproprier la bourgeoisie, quand on veut gérer les moyens de production collectivement, ben ça s'appelle une société communiste. Et quand on parle d'exploitation, il faut parler des classes sociales, il faut oser dire les mots. Le grand drame, c'est qu'on ne nomme plus, on ne nomme même plus notre adversaire aujourd'hui. Alors, on nous invente des boucs émissaires, je ne pense même pas seulement à l'immigré ou à l'étranger. Je pense aussi à l'Union européenne, je pense aux traités commerciaux. Mais l'adversaire, celui qui décide, celui qui domine, qui existe avec des intérêts, son pouvoir, la grande bourgeoisie, on ne la nomme plus. Et on ne la désigne plus comme responsable aujourd'hui de la situation. Donc ça, moi je le fais, je suis de près la campagne, et je crois être la seule, oui, à le faire. Alors, très bien, très bien. Si cela provoque des si d'autres ont envie de reprendre ça, très bien.
Si ça sert d'exemple, c'est ça que vous voulez dire, Christophe.
Vous dites que vous êtes la seule à nommer les choses. Vous pensez que c'est ça qui explique que cette conscience de classe que vous essayez de mettre sur la table à l'occasion de l'élection, elle n'a pas l'air de prendre dans la société. Enfin, comment vous expliquez que les travailleurs, les dominés sont extrêmement nombreux, et vous le dites d'ailleurs dans vos meetings, ils sont de plus en plus nombreux, et en même temps, ils ne viennent pas une sorte de... Vous ne devenez pas un parti de masse, quoi, en gros. C'est quoi, à votre avis?
Lutte ouvrière revendique 8000 militants, c'est ça?
Oui, c'est ça, adhérents, et avec parmi eux, certains qui sont très engagés dans le militantisme, d'autres moins. Mais il faudrait que vous posiez la question, pourquoi des partis ouvriers qui s'était construit sur cette conscience de classe avec tout ce capital politique du mouvement ouvrier, des idées marxistes, des idées de Lénine, Parti communiste par exemple. Pourquoi, alors qu'il était en 80 autour de 16%, pourquoi aujourd'hui il n'a même pas de candidat?
Mais
pourquoi? Eh bien, parce que c'est lié, justement. C'est lié. Parce que cette politique-là et ce capital-là, il l'a effectivement démoli. Il l'a démoli par ses participations au gouvernement, par, et tous les travailleurs qui étaient organisés, qui avaient confiance, effectivement, dans les militants, qui en plus sont des militants dévoués, qui sont des combattants, hein, y compris de la classe ouvrière réellement. Se sont retrouvés complètement désemparés, avec ce sentiment de trahison, de désorientation, etc. Donc là-dessus, oui, il y a eu un véritable vide qui s'est créé, et l'idéologie de la bourgeoisie va à l'avance. Hein. Aujourd'hui, on a un discours qui est effectivement monopolisé par les représentants de la bourgeoisie. Il n'y a pas d'argent, hein, c'est le dialogue social, il faut serrer la ceinture parce que c'est la crise, etc., etc. Donc oui, il faut reconstruire des partis. Alors, on les reconstruira... pas seulement justement par des discussions ou par des élections. Moi, je suis sûre que ça reviendra au travers de luttes aussi, hein, ça. Mais bon, en même temps, c'est le propre des exploités, hein, de pas être conscient, non seulement être conscient, enfin, de ne pas être conscient qu'ils peuvent changer leur sort. C'est le propre de toutes de toutes les sociétés d'exploités, hein. C'est que justement, ils ont intégré leur exploitation comme incontournable, comme intangible, comme un sort de la nature en quelque sorte, hein, voilà, ils ont tiré un mauvais numéro, hein, et puis il n'y a pas cette conscience de pouvoir inverser les choses. Et ça, que ce soit dans sous les sociétés d'esclavage, esclavagistes, ou que ce soit les peuples colonisés, hein, ils ont mis du temps, ça a demandé pour qu'il y ait ces révoltes sociales au cours desquelles les exploités, les opprimés prenaient conscience de ce dont ils étaient capables. Donc moi je mets je m'inspire de tout ça. Je suis convaincue que ça reviendra et que dans ces combats sociaux, toutes ces idées-là reviendront en avant, à condition qu'il y en ait qui continuent aussi de les alimenter, de les faire vivre, de les faire circuler.
C'est la dialectique de la domination et de l'émancipation. C'est ce qui a toujours été le mot dans le mouvement ouvrier, le mouvement social.
Et moi, j'étais frappée par, dans la mobilisation de la loi El Khomri, par cette jeunesse qui brandissait des pancartes à bas l'exploitation, à bas l'esclavage salarié, etc. J'étais frappée parce que je me suis dit, mais ces jeunes, où ont-ils eu ces idées? Eh bien, parce qu'il y a des militants qui continuent de les transmettre et que ça infuse malgré tout la société, même si c'est de façon, même si d'un point de vue électoral, c'est minoritaire. Et il y a une différence entre les scores électoraux et le fait que les idées sont infuses. Hein, il y a une grosse différence parce que nous, le nombre de discussions qu'on a avec des travailleurs, des ouvriers qui nous disent « je suis d'accord, mais… » Je suis d'accord, mais quand même, là, peut-être qu'on va les départager. L'électoralisme, il est très fort, très puissant. On nous le met dans le biberon, hein, l'électoralisme. Hein, dès que, voilà, on est en tête à l'électoralisme. Donc,
ces militants dont vous parlez viennent souvent, hein, dans nos lives. On a accompagné tous les mouvements sociaux. Notre question, c'était un peu comment lutte ouvrière voit son alliance avec... Parce qu'il n'y a pas... Parmi tous ces militants et tous ces jeunes, ils n'ont pas écouté que des militants de lutte ouvrière. Il y a d'autres militants. Et donc, notre question, c'était un peu pour que vous expliquiez un petit peu pourquoi ce chemin solitaire. Vous êtes un peu cousin historiquement avec le NPA. Pourquoi? Et vous avez même historiquement avec la Ligue communiste fait des alliances électorales parfois. Pourquoi, à chaque fois, c'est chacun séparément? Pourquoi est-ce qu'il y a des possibilités d'alliance, il y a des possibilités de rencontre, de discussion, entre que les forces soient le moins dispersées possible, comme c'était, puisque vous preniez des références historiques, dans le cadre de la première internationale de Marx, il y avait toutes sortes de courants politiques.
Mais là-dessus, il n'y a absolument aucun problème. Mais y compris dans la première internationale, il y avait des courants.
Oui, des courants différents.
Il y avait des blanquistes, il y avait des...
Mais ils se parlaient, c'est ça que je voulais dire.
Ils se parlaient.
Ils se parlaient.
Vous
parlez.
Nous parlons. Et à la fête de lutte ouvrière, il faudrait que vous reveniez pour voir ce qu'il s'y passe. Car il y a...
Mais j'y vais en rasant ma moustache, mais vous n'avez pas remarqué.
Car il y a un débat chaque année, lutte ouvrière... NPA, hein, voilà, parce que...
Les libertaires aussi.
Nous y tenons. Non, parce que, effectivement, pour nous, le trotskisme, hein, et notre, comment dire, notre, nos gènes communs trotskistes signifient quelque chose hein, pour nous. Donc effectivement, ce débat...
Donc c'est pas avec... la fédération anarchiste, non, pas les organisations libertaires.
Non, mais en revanche, je tiens quand même à souligner, c'est que là, oui, il y a une campagne électorale. On défend nos idées et je vois pas pourquoi on pourrait pas les défendre avec leurs nuances et avec leurs différences. Donc, et je vois pas pourquoi il faudrait forcément que l'Utouillard et l'UNPA n'aient qu'un candidat. Ce qui frustrerait beaucoup l'UNPA, hein, qui d'ailleurs, au point même que quand on a demandé à Philippe ce qu'il aurait voté s'il n'avait pas été candidat, hein, et il a répondu qu'il se serait sans doute abstenu, réponse que je n'aurais sans doute pas faite, inversement. Parce que c'est toujours nous, les sectaires, hein, mais l'histoire, il ne faut pas la refaire à l'envers. Alors, par ailleurs... Donc, sur le plan électoral, moi, je ne vois pas pourquoi les uns ou les autres se priveraient de faire leur campagne avec leurs différences, avec leurs nuances, sur un tas de sujets. Hein. Franchement, ça, quelque part, je trouve qu'on en est même plus fort comme ça, parce qu'en réalité, on peut s'adresser avec nos sensibilités différentes à plus de monde, et puis on a deux fois plus de temps. Voilà. Et en revanche, on est de tous les combats sociaux. Et on est prêt à participer à tous ces combats sans regarder, sans demander ni les idées, ni la carte, ni à personne. Et donc notre isolement, est, enfin, je veux dire, c'est pas juste de nous voir comme ça. Nous étions dans les manifestations du 19, la marche pour la justice et la dignité, nous étions à celle au Rassemblement de la République, et nous étions, voilà, nous sommes de toutes les mobilisations. Et y compris, nous pensons que dans le mouvement ouvrier, et quand il y a des luttes collectives importante, eh bien, on peut aussi, les travailleurs peuvent aussi choisir parmi différentes tendances du mouvement ouvrier. Et ce n'est sûrement pas une faiblesse. Parce que moi, je connais aussi l'histoire de la Révolution russe. S'il n'y avait eu qu'un parti, hein, le parti menchevique, par exemple, ou le parti socialiste révolutionnaire en Russie, bah, il n'y aurait jamais eu la Révolution d'octobre. Et donc, les travailleurs n'auraient jamais pris réellement le pouvoir. Les soviets n'auraient pas pris le pouvoir. Donc, je crois que ça a été plutôt... quelque chose d'important qui est justement ce pluralisme dans les soviets.
Excusez-moi, on a. Il n'y a pas de souci, on va passer du pluralisme dans les soviets. On va
revenons au présent. Mais c'est le centenaire en même temps, hein, de 1917.
Vous m'inviterez si vous avez une émission sur la Révolution.
Il y a tout un feuilleton tout cet été, nous y revenons.
On peut revenir au présent. Non, je voulais parler, vous en avez déjà pas mal parlé, des luttes et notamment en fait de la mobilisation sur la loi El Khomri qui a eu tout le printemps. Où on vous, enfin, moi j'ai couvert quasiment toutes les manifs et effectivement je vous ai beaucoup vu, j'ai vu tous les autres. Comment vous avez, enfin, qu'est-ce que vous avez pensé de ce moment? Est-ce qu'il y a un moment où vous avez dit il y a quelque chose qui se passe, on peut, il y a une carte à jouer, il y a. Enfin, beaucoup de gens ont analysé ça comme il y a quelque chose qui se passe qui ne s'était pas passé depuis très longtemps en France. Est-ce que vous avez eu ce point de vue-là aussi ou vous avez dit bon bah, c'est une lutte sociale comme les autres et elle va rien donner comme beaucoup de luttes sociales et bon.
Oula.
Bah, c'est un peu la vérité quand même.
Oula.
Et voilà, c'est juste, c'est quoi votre analyse en fait de ce moment?
Le non, bilan qui a été assez particulier aujourd'hui.
Non, alors quand la lutte démarre, pour nous c'est l'ouverture de tous les possibles. Parce que justement, c'est ça aussi la dynamique d'une lutte, c'est au travers de la lutte, au travers d'un mouvement, qu'on réalise ce qu'on représente, non seulement numériquement, mais comme force sociale. Hein, moi, j'ai encore en tête comment les journalistes, comment le gouvernement, comment le FN était enragé de voir les grèves des cheminots, etc., etc. Bon, mais dans ces moments-là, quand on est cheminot, quand on participe à ces grèves, on le sent, son poids. Hein, son pouvoir de peser par en bas. Donc pour nous, aucune lutte n'est mineure, etc. Et moi, j'espère encore que cette mobilisation était une première phase dans le réveil de la combativité ouvrière. Moi, c'est mon souhait. Hein, et je suis convaincue que les attaques, elles vont continuer de toute façon. Et ce que j'espère, c'est qu'on passe à la phase 2, la phase 3. Et parce que la réalité, c'est qu'il n'y avait qu'une fraction de la classe ouvrière qui était mobilisée. Il y avait beaucoup de réserves dans les ateliers, dans les bureaux, etc. Moi, j'ai milité. Hein, j'étais quasiment la seule dans mon lycée à être en grève et à suivre les manifestations, etc. Donc je sais très bien les réserves qu'il y avait. Et voilà. Et en même temps, je me dis, bah, quand il y a eu aussi passivité, une résignation, un peu, enfin, en tout cas, une apathie pendant des années et des années, bah oui, c'est pas, ça peut pas revenir non plus du jour au lendemain. Voilà, donc, voilà, moi, de toute façon, je reste optimiste, foncièrement, parce que je n'imagine pas qu'on puisse accepter éternellement ce qu'on subit aujourd'hui. Je parle de l'ensemble du monde du travail.
Est-ce que, pour poser les choses, il y a donc les syndicats qui se mobilisent, les partis comme le vôtre ou comme le NPA qui se mobilisent à côté, et en même temps, du fait notamment de la charte d'Amiens, il n'y a jamais de vraie conjonction de toutes ces forces. Enfin, on a l'impression qu'il y a un petit blocage en France aussi là-dessus. On a l'impression que le monde du travail et le monde politique se regardent parfois en chien de faïence et n'arrivent pas à évoluer suffisamment vite ensemble. Non ?
Je ne comprends pas ça. Non. On a justement dans ce mouvement, ce qui était frappant aussi, c'était qu'on s'est retrouvés tous, y compris salariés de petites entreprises, de grandes. Moi, j'étais frappée. Je tournais un peu en province. Il y a eu des grosses manifestations. Et c'était impressionnant de voir que c'était des délégations même de petites entreprises, de 15, 20. Or, il y avait 3 ou 4 ouvriers, et public, privé. Voilà. Je ne vois pas ça. Enfin, je ne comprends pas cette idée que quand il y a un mouvement, il faut forcément qu'il y ait un chef, une direction et tous alignés. Moi, non, c'est la diversité du mouvement ouvrier aussi. Et je crois que c'est comme ça. Quand il y a une dynamique qui se met en place, justement, les travailleurs peuvent choisir. Et bien sûr que j'espère que... s'il y a vraiment la vapeur un jour, eh bien, ils iront jusqu'au bout de leurs possibilités grâce à ceux qui leur donnent cette perspective-là. Et quand je dis au bout de leurs possibilités, je dis justement ne pas se contenter d'un mieux-être au niveau des salaires ou au niveau de l'emploi, mais contester le pouvoir de la grande bourgeoisie sur les moyens de production.
Christophe, dans ses manifestations d'il y a un an, a chroniqué beaucoup... les atteintes aux libertés fondamentales, les violences policières, dans ce contexte en plus d'état d'exception, d'état d'urgence. Est-ce que lutte ouvrière, dans les militants qui ont été engagés, a été visée par ça? Il y a eu des militants arrêtés, il y a eu des fichés S. Est-ce que vous êtes une de ces organisations qui s'est sentie impliquée ou concernée, visée par le pouvoir d'État dans ce moment-là?
Alors, on a des camarades, on a des amis, on en connaît. Bon, et maintenant, on n'était pas de ceux qui avaient spécialement envie d'aller à l'affrontement avec la police, parce qu'il y a un aspect, ou avec les CRS, parce qu'il y avait un aspect un peu, comment dire, c'est pas la force d'un mouvement. Elle n'est pas dans le caillou, le projectile qu'on va jeter contre le CRS. La force du mouvement, elle est dans le nombre et dans la conscience de ceux qui le mènent et qui le conduisent, dans la conscience de leurs objectifs et de comment ils peuvent revenir encore plus forts. Donc nous, on milite dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'on a laissé ceux qui avaient envie d'aller chatouiller les CRS, les forces de l'ordre, leur demander des comptes aussi, légitimement, parce qu'il y avait une pression qu'il fallait dénoncer. En même temps, voilà, pour nous, l'essentiel n'était sûrement pas là.
On est un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. On a déjà parlé un petit peu du NPA et vous nous avez dit que vous aviez des nuances et des différences. Vous dites par exemple que le NPA noie la lutte des classes dans d'autres combats. Je prends par exemple. Sur l'écologie, normalement, ou sur la question du voile et de la laïcité, vous avez des vrais désaccords.
Oui.
Mais est-ce que c'est pas...
Sur
l'écologie, si.
Vous allez nous expliquer, mais termine ta question.
Mais est-ce que c'est pas aussi parce que c'est des nouvelles luttes qui traversent aussi la société, enfin la question du voile, comment vous expliquez que la question du voile, par exemple, vous en fassiez quelque chose qui soit pas l'essentiel et que l'essentiel reste la lutte des classes absolument?
En clair, est-ce qu'il n'y a pas d'autres terrains? Il y a la lutte ouvrière, mais par exemple, on prend un exemple, là, vous me repreniez travailleuse, travailleur tout à l'heure, la question des femmes s'est imposée aussi à un mouvement ouvrier qui lui-même était machiste. Donc est-ce qu'il n'y a pas la question des discriminations liées à la religion, à l'apparence, la question de la crise de civilisation écologique? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres terrains de lutte, au-delà de votre débat avec le NPA, qui aussi relèvent des enjeux que peut porter un mouvement ouvrier ou que peut porter la lutte des classes, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure?
Bien sûr, et nous, on mène, effectivement, on est présents, je l'ai dit, on était présents à la marche pour la justice et la dignité du 19.
Après l'affaire Théo.
Voilà, après l'affaire Théo. Donc, c'est des combats qu'on... enfin, en tout cas, on s'exprime là-dessus. Notre solidarité, elle est sans ambiguïté. Et en même temps, on sait aussi... toutes ces oppressions, que ce soit justement le sexisme, le machisme, que ce soit le racisme, elles ont, une origine fondamentale, qui est cette société d'exploitation et de classe sociale, qui provoque effectivement, qui crée ces inégalités, qui crée ces injustices. Et toutes les différences servent justement à ceux qui dominent pour dresser les gens les uns contre les autres. Donc effectivement, nous on pense que combattre cette société d'exploitation, d'abord, c'est ce qui nous rassemble, les femmes, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, c'est ce qui nous rassemble, c'est nos intérêts communs et collectifs. On est tous des exploités qui avons des intérêts essentiels, vitaux, en commun et qui devons nous battre là-dessus. Et c'est ce qui va nous permettre d'ailleurs de dépasser les différences qui peuvent exister
donc,
entre
ce qui
nous.
Veut dire combattre qui le voile, exister entre par
nous.
Exemple.
Mais donc pour nous, effectivement, le combat, c'est ce qui nous rassemble, c'est cette conscience de classe. Et c'est ce combat contre le capitalisme.
Le fait qu'une musulmane affiche le voile, après, pour vous, il faut la convaincre d'enlever ce voile.
Alors, nous, on est clairement féministes et on pense qu'effectivement, le voile, c'est pas une question de laïcité, d'ailleurs. Pour nous, c'est une question, vraiment, de soumission de la femme et de représentation de ce que du rôle et de la place de la femme. Et c'est l'enfermement de la femme, c'est la dépossession de son corps. Et nous sommes fidèles à ce combat qui a été mené par tant de femmes. En Algérie, au Maroc, en Iran, en Afghanistan, enfin bon, Taslima Nasrin, Chador Javan, effectivement, pour nous, c'est des femmes qui ont eu ce courage-là de dire, nous, on refuse ce rôle-là qu'on nous dicte, parce qu'on est né fille ou femme. Donc pour nous, c'est un combat important, bien sûr.
Et sur l'écologie, tu dis. Et
oui, sur l'écologie...
Et ce qu'on dénonce, c'est la démagogie. Voilà. C'est de fermer les yeux sur ça, au prétexte que, il y a un courant parmi les opprimés qui revendique ça comme identité. Voilà. Et c'est vrai qu'on ne se reconnaît pas dans le relativisme culturel. Ce qui, moi, ça me paraît curieux. La liberté à laquelle j'aspire, j'ai la naïveté de croire, mais peut-être que c'est effectivement naïf, mais de croire que n'importe quelle femme, jeune fille, aspire aussi à celle-là, à cette liberté de décider.
Sur l'écologie, sur le lutte ouvrière, j'ai lu les différents textes, vous dites, à la différence de nombreux militants écologistes, nous ne confondons pas la lutte contre les usages qui sont faits aujourd'hui de certaines techniques, énergie nucléaire ou organismes génétiquement modifiés, avec la lutte contre ces techniques elles-mêmes. Pour nous, c'est le fait de que ces techniques soient entre les mains de la bourgeoisie utilisées pour la recherche du profit maximum, sans aucun contrôle de la population qui les rend dangereuses. En clair, ce qu'on comprend un peu, c'est que le nucléaire et les OGM, c'est mauvais parce que c'est dans les mains de la bourgeoisie, mais si c'était dans les mains des travailleurs, ce serait bien, c'est ça?
Ah bah ça serait bien, ça resterait des technologies comportant des dangers. Mais ce qui est sûr, c'est que si on n'a plus l'appât du gain, de la rentabilité, et si on a ce souci, justement, de mettre les garanties, les protections, ça serait autre chose. Sans parler du nucléaire, on se souvient de Bhopal, on se souvient d'AZF, en France. C'était pas le nucléaire, ça nous a quand même pété la, ça a pété la figure hein, des Toulousains, 32 morts. Bon, on se souvient de la vache folle. Enfin bon, effectivement, les capitalistes, ils peuvent, ils ont empoisonné quand même les travailleurs avec l'amiante. Hein, les mines de charbon, combien ça fait de morts hein. Donc effectivement, de toute façon, nous, on est de ceux qui confieraient pas une boîte d'allumettes aux capitalistes, parce qu'on pense qu'ils pourraient la faire péter. Voilà. Donc évidemment, pour nous, sur le nucléaire, il y a un préalable, c'est d'enlever ce secteur-là de tout le secteur marchand, de tout ce secteur où on va chercher à faire de l'argent dessus, où il y aura des bétonneurs qui vont chercher à faire ses profits avec ça. Pour nous, la première urgence, c'est ça, c'est de retirer hein, cette filière de toute considération voilà, pécuniaire.
Mais de garder la filière.
Mais je ne peux pas dire, moi, que dans une société où justement les travailleurs auraient pris le pouvoir et où on pourra poser tous ces problèmes-là de technique, les avantages, les inconvénients de chacune, parce qu'elles ont quand même chacune objectivement des avantages et des inconvénients. Si on avait inventé l'énergie renouvelable gratuite, illimitée, ça se saurait. Qu'on mette en. Qu'on, voilà, qu'on, et je ne peux pas dire, moi, là, que le nucléaire, l'humanité ne l'utilisera jamais. Je ne peux pas le dire. Ne peux pas le dire. Et par contre, voilà, ce que je peux dire, c'est qu'il y a le préalable, effectivement, qui me paraît là, hein, c'est qu'y compris des boîtes comme EDF, Areva, qui sont pourtant publiques, hein, eh bien, elles gèrent les choses de façon irresponsable. Donc, oui, sur le nucléaire, nous, on dit, bon, il faut arrêter tout de suite avec cette gestion, en fait, capitaliste.
Mais vous parliez, vous faisiez allusion à la révolution russe tout à l'heure et vous citiez Lénine. En même temps, le bilan de cette révolution qui a mis la classe ouvrière, quelles que soient ses mésaventures après, au pouvoir et qui a créé au départ une société non marchande, il est factuellement documenté que ce fut grandement une catastrophe écologique, que les dégâts écologiques ont été très importants en termes, y compris de maladies, en termes de destruction de l'environnement. Donc voilà, il y a eu une histoire et ça ne se résout pas au fait qu'elle ait produit le stalinisme, c'est qu'il y a eu l'idée du productivisme, l'idée les soviets plus électricité, et les dégâts ont été là. Ce que je veux dire, c'est que quand même, dans le bilan du XXe siècle...
Est-ce que vous pensez qu'on pourrait se passer l'électricité ?
Non, je veux dire, à un moment, c'est qu'il y a, il y a quand même, dans la réflexion, y compris des penseurs de l'émancipation, et qui sont multiples, il y a cette idée qu'il y a une certaine autonomie des questions d'environnement qui ne se réduit pas à la question sociale. Vous ne le pensez pas du tout ?
Moi, je pense que, bon, d'abord, on ne peut pas se baser sur ce qui s'est passé en Russie, y compris Lénine, y compris Trotsky n'ont jamais pensé qu'ils avaient créé une société communiste aboutie, qu'ils n'en étaient même pas au stade capitaliste. Combien de fois l'ont-ils dit hein ? Y compris quand ils sont revenus avec la NEP, etc. Parce que tout ça, c'était à développer. Donc on ne peut pas prendre cet exemple-là pour dire, bah, regardez, voilà, les... non, ça ne tient pas la route. Mais pour moi, gérer les grands moyens de production en commun, c'est forcément les gérer en prenant en compte les critères de préservation de l'humanité. Donc les critères de préservation de la planète, les critères écologiques.
Et le nucléaire ne menace pas l'humanité.
Marx y compris disait hein, qu'on doit, voilà, on doit rendre une planète pour les générations futures.
D'accord. Et le nucléaire, vous le voyez bien sur les déchets, leur durée, tout ça est très documenté.
Et le
quand
pétrole,
même.
Et le gaz, et etc. Et dites-moi, est-ce qu'on est capable de produire une énergie aujourd'hui hein, au niveau hein, de consommation dont on a besoin hein, qui ne soit pas dangereuse, qui ne comporte aucun danger. Il n'y en a pas. Alors on peut dire, bah, il faudrait, oui, justement, il faut rationaliser, il faut supprimer tous les gaspillages, il faut produire ni trop, ni trop peu pour l'ensemble de l'humanité. Voilà, moi je suis convaincue, mais moi j'ai confiance, c'est une confiance dans l'humanité. Je suis convaincue que si, collectivement, on organisait les choses, mais on les organiserait mille fois mieux. Mais je pense qu'il faudrait sans doute prendre des risques, malgré tout. Y compris quand on est allé sur la Lune, il y a eu des risques de prix. Hein ? Eh bien moi, je pense que tous ces... Mais qu'on le sache, qu'on le décide collectivement. Quel risque on prend ? Pour quel bénéfice ? Pour quel objectif ? Donc, et que ça soit posé, et que ça soit, voilà, assumé par tous. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça, comme ça que ça se passe. Et y compris le nucléaire, je sais bien que le nucléaire a été effectivement... soutenu par toute une filière industrielle, des capitalistes qui avaient beaucoup de grains à moudre, etc. Mais il faut aussi, encore une fois, nous, on n'est pas... Pour nous, le problème, c'est le capitalisme. Et une fois qu'on aura réglé, qu'on aura réglé le problème, en tout cas, on se posera...
Plus facile à dire qu'à faire.
Mais justement, sauf que quand on dit, au niveau de l'écologie, il faut mener la bagarre contre l'écologie, etc., c'est en même temps, ce sont des combats vains. Parce que moi, je suis quand même frappée. L'écologie, ça fait déjà 10 ans, 20 ans. Tout le monde est écolo.
Le premier candidat, c'était en même temps que la première candidature d'Arlette Laguy, et c'était René Dumont.
Ils arrivent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont incapables d'empêcher les catastrophes qu'eux-mêmes, ils ont annoncées. Pourquoi? Parce que c'est toujours les mêmes groupes qui ont le dernier mot. Donc pour moi, on ne peut pas être écolo si on n'est pas...
anticapitaliste.
Mais oui, anticapitaliste. On ne peut pas l'être.
D'autres questions?
Non, c'est...
Voilà. On a débordé déjà, je crois.
Non, je crois qu'on est, dans la demi-heure. Juste, merci Nathalie Arthaud. Au-delà de la campagne de Nathalie Arthaud, puisqu'on avait accompagné un peu ce film, si vous voulez voir en pratique des militants ouvriers de lutte ouvrière, n'oubliez pas de voir Comme des lions, où vous voyez un comité de grève dont certains des militants qui l'animaient, CGT, syndicalistes CGT, pas en tant que militants de lutte ouvrière, sont par ailleurs des militants de lutte ouvrière. Cela permet, au-delà de votre campagne, de voir aussi la réalité militante de ce que vous disiez. Voilà, c'est terminé.